Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tout homme dans la vie se donne un objectif, un but. Il cherche à atteindre une certaine perfection. Il poursuit un idéal, un bien. Pour beaucoup, ce qu'il cherche, c'est la réussite matérielle, le succès. Gagner beaucoup d'argent, réussir en affaires, c'est pas très honorable. Pour d'autres, c'est le pouvoir. Faire une belle carrière politique ou devenir un capitaine d'entreprise, ou encore le métier. Trouver son accomplissement dans un métier dont on possède le savoir-faire, c'est une très bonne chose. Pour certains, c'est la science, connaître le plus de choses possibles. Pour quelques-uns, c'est la vertu ou le service du prochain. Un médecin, par exemple, un médecin de campagne, se donne à tous ses patients. Pour beaucoup, il faut le souhaiter, ce sont les enfants, c'est la famille, fonder un foyer. Tout cela n'est pas illégitime. Si c'est bien ordonné, si c'est soumis à Dieu, c'est même quelque chose de tout à fait bon. Mais il est un bien qui, lui, est peu cherché. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Qui cherche encore notre Seigneur? Qui s'intéresse à notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? On vit dans un temps qui connaît une indifférence générale. Et pourtant, c'est le seul bien qui peut vraiment combler notre âme. C'est l'unique nécessaire. Notre Seigneur est notre Créateur. Il est notre fin suprême. Vous connaissez le mot de saint Augustin. Vous nous avez créés pour vous, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en vous. Tout le reste est contingent. Tout le reste est passager. Et c'est d'autant plus surprenant que Dieu veut être cherché. Il veut être cherché en général par tous les baptisés, moyennant sa grâce, bien sûr. Il en a même fait un précepte. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Tout baptisé doit aimer Dieu par-dessus tout et tendre à la perfection de la charité. C'est la parabole des invités au festin. Le maître de famille invite un certain nombre de personnes, et ces gens se récusent. L'un dit « j'ai acheté une villa, je ne peux pas venir ». L'autre dit qu'il a acheté 5 paires de bœufs, il faut qu'il les essaie. Le troisième dit qu'il s'est marié, il ne peut pas venir. Donc tous se récusent. Et puis Dieu veut également être cherché, spécialement cette fois, par ceux qui l'appellent, à qui il donne cette grâce spéciale qu'on appelle la vocation. Et cette fois, ça n'est pas un commandement, c'est un conseil. Comme il est dit au jeune homme riche, « Si tu veux être parfait, va, vends tes biens, donne-les aux pauvres, et puis suis-moi. » Et l'Évangile en donne des magnifiques exemples. Voyez par exemple l'appel des premiers disciples, les deux premiers, saint Jean l'évangéliste et saint André. Ils étaient avec saint Pierre disciples de saint Jean-Baptiste et ils ont entendu ce dernier rendre témoignage de Jésus. « Moi je baptise dans l'eau, mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi mais qui est avant moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. » Et saint Jean-Baptiste leur a montré notre Seigneur. Quand notre Seigneur passait, il a dit « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. » Alors, ils sont allés vers lui et Jésus leur a demandé « Que cherchez-vous ? Quid queritis ?» C'est le premier mot de Jésus que nous rapporte l'Évangile. « Quid queritis ? Que cherchez-vous ? » Et c'est le mot que, dans le cérémonial de la vêture, le supérieur religieux pose au jeune postulant qui se présente. « Quid queritis ? Que cherchez-vous » Et le postulant répond « La miséricorde de Dieu est la vôtre. » Les deux disciples n'ont pas répondu tout à fait la même chose, mais ils ont dit quelque chose de très beau. « Rabbi, c'est-à-dire maître, où habitez-vous » Ils veulent, plus ou moins confusément, connaître notre Seigneur, vivre avec lui. Ce qu'a dit saint Jean-Baptiste les a intrigués, leur a montré que notre Seigneur était non seulement digne d'attention, mais qu'il y avait certainement quelque chose de formidable, d'extraordinaire en lui. Alors ils veulent partager sa vie, le servir. Ils sentent que c'est là ce à quoi ils sont appelés. Et la réponse de notre Seigneur est très belle. Venez et voyez. Venez, suivez-moi et vous verrez. Vous goûterez comme le Seigneur est bon. Et les disciples ont suivi et ils ne tardèrent pas à appeler leurs amis, leurs frères, jusqu'à ce qu'ils soient ce groupe des 12 que notre Seigneur va appeler d'une manière plus formelle un petit peu plus tard. Dieu convie spécialement certaines âmes, il les veut pour lui, auprès de lui, et c'est une grâce spéciale, une grâce qu'on ne peut pas ne pas ressentir quand Dieu nous l'adresse, quand Dieu nous la donne. Une grâce qui, si on est fidèle, transforme une âme. Voyez saint Paul, il était un ennemi acharné de notre Seigneur, et notre Seigneur le jette à bas de son cheval. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Je suis celui que tu persécutes. » Et voyez comme le futur saint Paul se laisse saisir tout de suite, sans tergiverser. Il s'humilie. « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Il aurait pu se récuser. Non. Plus tard, dans l'épître aux Philippiens, il dira qu'il a été saisi, empoigné, le mot est de lui, empoigné par le Christ et que cette saisie l'a complètement transformé. Désormais, plus rien de ce qui comptait pour lui avant ne compte plus. Voici ce qu'il écrit. Tous ces avantages, ces gains dont j'étais pourvu, je les ai tenus une fois pour toutes pour une perte à cause du Christ, à cause de la connaissance suréminente de Jésus-Christ mon Seigneur, à cause du Christ, je regarde tout cela comme un détriment, comme du fumier. Il n'y a plus qu'une seule chose qui compte, notre Seigneur Jésus-Christ. Et désormais, saint Paul n'aura plus que ce seul nom dans son cœur, sur ses lèvres, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Celui qui était encore, quelques instants auparavant, le persécuteur des chrétiens, a éprouvé un sentiment analogue à celui de l'homme de la parabole qui a découvert un trésor dans son champ. Il vend tout ce qu'il a, pour acheter le champ et pour posséder le trésor. Non pas qu'il soit devenu parfait d'un coup d'ailleurs, mais il n'a plus désormais qu'un objectif, la recherche ardente du Christ qui l'a saisi, la recherche de sa volonté. Et il veut saisir notre Seigneur à son tour. Voici ce qu'il dit encore. Non pas que j'ai déjà atteint le but ou que je sois devenu définitivement parfait, mais je cours, je poursuis ma course pour tâcher de saisir le Christ Jésus parce que j'ai été moi-même saisi par lui. Voyez d'ailleurs comme le mot course est bien choisi. Quand on court, on oublie tout le reste, on oublie tout ce qui est derrière. On ne pense qu'à la ligne d'arrivée. On tend vers cette ligne d'arrivée. Eh bien, c'est exactement cela la grâce de la vocation. On tend, on promet de tendre de tout son cœur à la perfection. Non pas qu'on soit devenu parfait du premier jour, loin de là, mais on promet de tendre à la perfection. Cet appel de Dieu, si fort soit-il, si engageant, si attirant, n'est pas pour autant irrésistible. Il ne devient efficace que si on y répond positivement. Et on peut très bien ne pas répondre positivement. La preuve, le jeune homme riche, il s'est récusé parce qu'il avait de grands biens et il n'a pas voulu les quitter. Il avait bien ressenti l'appel de Dieu. Il était insatisfait. Il sentait sourdre au fond de son cœur un désir de perfection plus grand. Mais l'amour du monde a été le plus fort, hélas. Alors, il est parti tout triste, dit l'Évangile. Et cela explique que dans les temps où la charité se refroidit, dans les temps de crise, comme aujourd'hui, il y ait si peu de vocations. C'est une chose étonnante. Pourquoi aujourd'hui y en a-t-il si peu? Pourquoi si peu de jeunes gens, de jeunes filles, répondent à l'appel de Dieu? Est-ce parce que Dieu cesse d'appeler? Non, c'est pas possible. Il y a toujours autant d'appelés, mais beaucoup d'appelés manquent à l'appel. Nous avons lu en communauté, il n'y a pas très longtemps, la vie de Don Sortet. Certains d'entre vous, sans doute, connaissent ce nom. Il était le père abbé de Notre-Dame de Bellefontaine, la trappe qui se trouve au sud du département. Et il est devenu ensuite général de son ordre. Et il raconte dans une des lettres qu'il a écrites dans les années 55, à peu près, 1950-55, qu'il y avait dans l'ordre des Trappistes 950 novices. En 1950, c'est pas Mathusalem. Où sont-ils aujourd'hui? Que s'est-il passé? Car Dieu ne cesse pas d'appeler, Dieu ne change pas. Il a toujours soif d'âmes qui le servent, qui se donnent à lui complètement. Il a versé tout son sang pour nous, pour les hommes, et il ne saurait se désintéresser des hommes, les abandonner, ne plus vouloir les sauver. Au contraire, il ne cesse pas de pourvoir largement, on pourrait dire à mesure divine, aux besoins de son Église. Dieu n'est pas devenu indifférent à la misère des âmes, et la misère des âmes aujourd'hui est très grande. On peut penser que le bon Dieu en est extrêmement sensible. Ce n'est donc pas du côté de Dieu qu'il faut chercher le problème. Dieu ne manque pas à sa parole. Il pourvoit toujours aux nécessités de son Église, surtout quand ces nécessités deviennent plus criantes. Alors c'est du côté des hommes que se trouve le mal. Beaucoup de vocations n'aboutissent pas ou ne se réalisent pas alors que le bon Dieu a appelé ces âmes pour diverses raisons. L'ignorance d'abord. Ignorance du Christ, ignorance de notre Seigneur, on n'aime que ce qu'on connaît. Si on ignore notre Seigneur, si on ignore sa miséricorde, sa bonté, tout ce qu'il fait pour nous, si on ne cherche pas à le connaître, bah évidemment on restera plus ou moins indifférent vis-à-vis de lui. Ignorance aussi de la vocation. Certainement, beaucoup d'âmes qui se sentent plus ou moins confusément appelées se font une fausse idée du prêtre ou de la vie religieuse. Par exemple, on se dit « c'est inutile, à quoi ça sert? La société n'a pas besoin de ces gens qui sont des parasites ». C'est la mentalité qui dominait au XVIIIe siècle, un siècle très utilitariste. Mais c'est aussi une mentalité qui existe beaucoup aujourd'hui. On veut quelque chose d'efficace, humainement efficace. Alors, prier, la vie religieuse, se donner au bon Dieu, tout cela semble parfaitement inutile. Don Bosco donnait une raison pour laquelle les jeunes souvent se défient de la vie religieuse ou du sacerdoce. Parce qu'ils sont persuadés que le service de Dieu exige une vie triste, sans aucun divertissement ni plaisir. Alors, à quoi bon se faire religieux, se faire prêtre, si c'est pour être triste toute sa vie, si c'est pour souffrir, si c'est pour se priver de tas de choses qu'on pourrait avoir si on était dans le monde? Or, c'est tout l'inverse. Sans doute, dans le sacerdoce ou dans la vie religieuse, il y a des croix. Il y a le calvaire, mais il y a le tabor aussi. C'est certainement même le mode de vie, le statut dans lequel on trouve les plus profondes consolations, les plus grandes joies, parce que ce sont des joies surnaturelles, des joies spirituelles. Le service du bon Dieu est quelque chose de magnifique. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dit notre Seigneur. Or, dans quel état de vie donne-t-on davantage? Et puis, il y a aussi les mauvais exemples qui peuvent expliquer beaucoup de vocations avortées. Les mauvais prêtres, les mauvais religieux. Aujourd'hui, tout le monde sait bien que le nombre de défroqués est considérable. On dit que sous Paul VI, 70 000 prêtres ont demandé leur réduction à l'état laïque. Quelle tristesse, c'est lamentable. Et puis toutes ces campagnes de dénigrement, il suffit d'ouvrir la radio ou d'ouvrir un journal pour voir comme l'Église aujourd'hui est maltraitée. Il faut comparer ce qui est comparable. Il ne faut pas juger le sacerdoce ou la vie religieuse qui sont en soi excellents à partir de ceux qui les trahissent ou à partir de la caricature qu'on en fait. C'est très important. Et puis il peut y avoir encore le manque de générosité. Beaucoup d'âmes sont ingrates, sont indifférentes, parce qu'elles manquent de prière, parce qu'elles manquent de sacrifice. Alors elles voient les choses d'une manière trop humaine. Et puis il y a toutes les mauvaises habitudes, la mauvaise éducation, tous les dérèglements qui peuvent compromettre une vocation. C'est un petit peu comme dans le domaine de la nature. Quand le gel intervient, ben les fleurs, les pousses sont comme paralysées par le gel. La sève ne peut plus pousser et la fleur ne donne pas son fruit. La vocation est une grâce singulière. La grâce, c'est quelque chose de surnaturel, quelque chose de gratuit, c'est un don de Dieu. Cela ne repose pas sur nos mérites, sur nos capacités, sur nos talents. Donc il ne faut surtout pas en juger avec des critères humains, parce qu'on se trompe. Si on juge de tout cela avec une prudence charnelle, ben évidemment, on aura le sentiment qu'il y a quelque chose là qui est impossible, absolument impossible, déraisonnable. Si saint Paul avait raisonné comme ça, ou si du temps de saint Paul, le bon Dieu avait estimé que c'est des raisons humaines qui devaient guider son choix, alors jamais il n'aurait choisi saint Paul. Saint Paul lui-même dit qu'il était un homme chétif, qui ne savait pas parler. C'est le plus grand prédicateur de tous les temps. Et puis c'était l'ennemi de l'Église. Or Dieu en a fait son vase d'élection. Alors bien sûr, il y a des conditions objectives posées par l'Église. Mais ces conditions sont posées par l'Église. C'est à l'Église d'en juger, pas à chaque candidat. Donc ne jugeons pas de tout cela selon nos critères humains. Alors pour terminer, il faut nous dire que par rapport à cette question de la vocation, nous sommes tous concernés. Il ne faut surtout pas se dire « moi, ça ne me regarde pas, je suis père ou mère de famille, je suis grand-père ou grand-mère, ou j'ai déjà un métier, j'ai déjà une situation, donc tout cela, ça n'est pas pour moi ». C'est le bien commun de l'Église. Tout catholique doit avoir le souci du bien commun de l'Église. Les parents, les grands-parents, les familles, c'est dans les familles que les vocations peuvent éclore. C'est là qu'on apprend l'amour du prêtre ou l'amour de la vie religieuse. Si on n'en parle jamais, ou si on parle du prêtre en le critiquant, ou d'une manière qui est défavorable, qui est caricaturale, ben évidemment, les enfants ne chercheront pas à s'orienter vers cette voie-là. Et si le bon Dieu les appelle, ils étoufferont la voie du bon Dieu. Nous n'avons pas le droit de nous dire « ça n'est pas mon problème ». Il faut avoir le sens de l'Église, surtout aujourd'hui où il est décrié. L'Église est critiquée, elle est décriée, et bien d'une certaine manière, raison de plus pour se mettre à son service, pour la défendre. C'est quand le drapeau est en danger qu'il y a plus de mérite à le défendre. Et puis pour les jeunes, tout jeune gens, tout jeune homme, toute jeune fille qui a la foi, qui aime notre Seigneur sincèrement, doit se demander, sans a priori, sérieusement, loyalement, si notre Seigneur ne l'a pas choisi. Il ne s'agit pas de se donner à soi-même la vocation, c'est Dieu qui appelle. Mais il faut au moins se demander si Dieu, justement, ne nous appelle pas. Et c'est très important. Il faut avoir cette générosité. Et si, de fait, les jeunes chrétiens le font, nous aurons des vocations. Parce qu'encore une fois, Dieu, lui, ne manque pas. Donc, n'ayons pas peur, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas calculer. Bien sûr, la situation est difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est à faire. Monseigneur Lefebvre, dans les conférences spirituelles qu'il donnait à ses séminaristes, disait que justement, c'est une raison supplémentaire. Tout est à faire aujourd'hui, tout par avolo. Eh bien, cela doit nous enthousiasmer. Notre Seigneur n'a pas le bras raccourci, il ne manquera pas. Alors, prenons des résolutions concrètes. Nous sommes en carême. C'est un temps favorable pour prier pour les vocations. Dans ce temps du carême, l'Église nous demande d'avoir le souci de l'Église. Et parmi les grandes intentions de l'Église, il y a celle des vocations. Donc chaque jour, n'hésitons pas à avoir une prière toute spéciale pour les vocations religieuses et sacerdotales, pour que le bon Dieu suscite des vocations et les fasse aboutir. Et à la prière, il faut lier le sacrifice. La prière sans sacrifice n'a pas la même efficacité. Le sacrifice touche le cœur du bon Dieu. Si on fait des sacrifices à cette intention-là, le bon Dieu écoutera, il répondra. Et puis, autre résolution qui est importante aussi, il faut connaître la vocation sacerdotale ou religieuse. Si on ne la connaît pas, on ne pourra pas ni l'aimer, ni la faire aimer. Comment connaître ? Bien, par exemple, en lisant des vies de saints. En n'en restant pas à une vision caricaturale ou fausse ou minimisante de la vocation religieuse ou sacerdotale, en essayant de se renseigner, de voir toutes les grandeurs, les beautés qui se trouvent dans cet état. Et on n'aura jamais fini de les découvrir tellement elles sont immenses. Alors demandons à la Vierge Marie qu'elle nous donne cette conviction intime, profonde, et puis qu'elle nous aide à choisir quelques bonnes résolutions qui permettront justement, pendant ce carême, d'avoir une prière et des sacrifices tout spéciaux pour demander à Dieu des ouvriers pour sa moisson. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.